Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans ce programme sur VOA Afrique et heureux d'avoir mes consultants déjà en ligne pour analyser tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Je salue Lawal Tinkosuro du côté de Porte-Nouveau au Bénin. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir amis auditeurs de VOA Afrique.
En direct de Columbus dans l'Ohio, nous avons Amédine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Jules Valentin Ngoué est lui bien logé à Libreville, la capitale gabonaise. Jules, bonsoir.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Et puis Amine Birouk intervient depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Ce soir, on reviendra sur le prix Ballon d'Or attribué cette année à l'Espagnol Rodri. Bienvenue à tous. On revient sur le prix honorifique Ballon d'Or décerné cette année à l'Espagnol Rodri et qui fait grand bruit. Le milieu de terrain de Manchester City devance deux joueurs du Real Madrid, le Brésilien Vinicius et l'Anglais Jude Bellingham. Alors Jules, c'est pratiquement le second Espagnol qui remporte ce prix.
C'est le second Espagnol qui remporte ce prix après le célèbre dribbleur des années 60, Luis Suarez, acquis en 1960 à l'unanimité du jury. Mais la différence avec Rodri cette année, c'est que la victoire du milieu de la Roja est fortement contestée par le monde sportif qui aurait préféré pour une forte majorité que le trophée revienne au Brésilien du Real, Vinicius Junior, le vainqueur de la Ligue des champions européenne, celle-ci ayant pris depuis deux décennies la place de compétition la plus relevée devant la Coupe du Monde et les Coupes des Nations, les gros cylindrés de la Ligue des Champions possédant des effectifs en qualité supérieure à ceux des équipes nationales. Pour preuve, Lionel Messi, 6 fois sur 8, et Cristiano Ronaldo, 4 fois sur 5, ont obtenu la récompense suprême sur la seule base de la Ligue des Champions, en ayant traversé sans succès de nombreuses Coupes du Monde ou des Nations depuis 2002 pour l'un et 2006 pour l'autre. La polémique n'a pas encore cessé d'enfler.
Je me dirige vers vous, Lawal. C'est une déception pour Vinicius, qui a quand même réussi sa saison avec le Real Madrid.
Une saison assez bien réussie, sinon très bien réussie pour Vinicius Junior, qui se voyait déjà lui-même ballon d'or, qui avait toutes les chances, toutes les faveurs. Maintenant, les critères du ballon d'or sont... connu par les responsables et c'est eux qui savent par quels critères on peut désigner un ballon d'or. Mais sur la ligne, en matière de championnat, en matière de Ligue des Champions, Vinicius a été un cran au-dessus de Rodri. La seule fausse note chez Vinicius, c'est qu'en Copa, il n'a pas été assez brillant. C'est peut-être ça qui a joué en faveur de Rodri, qui a donc brillé à l'Euro. Il a marqué donc sa compétition. Et c'est peut-être ça qui a milité en faveur de Rodri. Mais il faut reconnaître que depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie déjà, l'attribution du ballon doit toujours être à polémique. On se rappelle une année où on devrait avoir Eto'o, ballon d'or, mais c'est plutôt Messi qui l'a emporté. Bien d'autres fois également, il y a eu des polémiques autour de ce ballon d'or. Mais aujourd'hui, Vinicius n'a qu'à se calmer, continuer de travailler et laisser cette déception ballon d'or derrière lui pour montrer encore qu'il est plus fort qu'un petit ballon d'or qu'il a raté.
Justement, ce couronnement n'est partagé par les dirigeants du club champion d'Europe. Alors, Amine, quel est votre sentiment ?
Honnêtement, j'estime que Vinicius Junior méritait son ballon d'or, étant donné l'excellente saison qu'il a fournie, saison extraordinaire même, puisqu'il a remporté la Champions League, la Supercoupe d'Espagne et la Liga, un triplé en club. Il a été décisif à chacune de ses apparitions dans les matchs les plus importants, que ce soit en tant que buteur ou en tant que passeur, et son niveau est allé crescendo au fur et à mesure de la saison. Et si à un moment Bellingham paraissait être le grand favori pour le sacre final, on voyait de plus en plus Vinicius devenir le successeur des grands joueurs brésiliens qui ont remporté ce prix, à l'instar de ses modèles, Ronaldo, Ronaldinho, etc. Mais l'impression aussi, c'est que le Real Madrid a eu tort de boycotter la cérémonie, même si il a eu quelques informations qui ont filtré et qui ont donné Rodri vainqueur. Il aurait fallu certainement avoir une cérémonie plus apaisée et moins de polémiques autour de la non-victoire de Vinicius. L'impression que Vinicius est un personnage qui dérange, C'est un joueur qui provoque sur le terrain et certains des votants n'appréciaient certainement pas son comportement sur le terrain. Chambreur, provocateur, dribbleur et parfois à la limite de l'insolence, mais dans le bon sens du terme. Parce que serait le sport sans ce type de piquant? Mais ça ne veut pas dire aussi que Rodri ne méritait pas, à l'instar de beaucoup de joueurs de l'Espagne, cette consécration. Rodri, l'antithèse de Vinicius, c'est un joueur plutôt sobre, c'est quelqu'un qui a contribué à la montée en puissance de Manchester City et qui aurait peut-être mérité de la gagner déjà la saison d'avant lorsqu'il avait réussi à gagner avec le club mancunien la Premier League, la Champions League, la Coupe, en marquant lors de la finale de la Champions League le but décisif. Maintenant, visiblement, ce genre de prix individuel dépend de la subjectivité des votants. Ce qui reste finalement en mémoire des gens, ce sont les titres que ces joueurs extraordinaires remportent. Après, tout est question de scrutin. Et autant, on peut estimer que au niveau du Ballon d'Or, il y a des critères qui sont définis et clairs. J'aimerais quand même me reporter sur ce qui nous concerne, nous Africains, les CAF Awards, où on ne connaît ni les membres du jury, ni les critères qui permettent d'avoir des sélections et des shortlists, ni les critères qui vont permettre à quelqu'un, à un grand joueur africain certainement, de brandir le trophée de meilleur joueur du continent le 16 décembre prochain. Bon entendeur, salut.
Sacré Amine le matrilène. Et vous, Amédine, si, on vous connaît pour votre côté catalan, mais le ballon doit toujours faire objet de critiques chaque fois après son attribution.
Tout à fait, Élysée. Le ballon d'or décerné à Rodri a fait beaucoup couler de l'encre et de salive. Certains ont même crié au scandale, car à la place de Rodri, ils s'attendaient à voir un certain Vinicius Junior. Mais il faut dire que ce n'est pas une première, car à chaque fois que le ballon d'or est attribué à un joueur qui n'est pas du tout un attaquant, il y a toujours eu du bruit et des problèmes autour de ce ballon d'or, puisque, comme vous le savez, Élysée, les attaquants ont eu souvent la chance de recevoir ce ballon d'or, parce que ce sont des joueurs qui sont mis en lumière, des joueurs qui ont l'habitude de marquer des buts, mais qui ont l'habitude également de faire des dribbles et de délivrer des passes décisives. C'est pourquoi à chaque fois qu'on décerne ce ballon d'or à un défenseur ou un joueur qui n'est pas attaquant, ça a toujours créé des problèmes. C'était le cas en 2006 avec un certain Cannavaro, l'Italien, a été contesté. En 1994 aussi, l'Allemand Mathieu Sammer a été contesté, mais je pense que pour cette année, Rodri mérite bel et bien ce ballon d'or pour avoir brillé non seulement avec Manchester City, sacré champion en Angleterre, mais aussi avec l'Espagne qui a surclassé quand même toutes les formations lors de leur passé. Donc je suis Rodri mérite ce ballon d'or, Élysée.
On reste en Europe avec la quatrième journée de la Champions League. Et demain, le Real Madrid jouera le Milan AC. On revient vers vous, Amine Birouko. Au repos ce week-end, le club merengue est attendu après ses deux revers sur le terrain et en coulisses.
La compétition, c'est ce qui permet de panser les blessures. Et le Real Madrid a eu une longue semaine pénible avec une défaite sur le terrain, une débâcle sur le terrain contre le Barça, une déroute dans les coulisses avec la non-attribution du ballon d'or à Vinicius, même si le club merengue a gagné le trophée de club de l'année, même si Ancelotti a pu bénéficier, même en son absence, d'une victoire qui n'est nullement usurpée de meilleur coach masculin de l'année. Mais c'est vrai que le Real Madrid a besoin de retourner sur le terrain dans son fief du Santiago Bernabéu pour pouvoir se réconcilier quelque peu avec ses supporters après l'échec face au Barça. Rien de mieux que les matchs de la Champions League, rien de mieux que le Milan AC qui est également mal en point en Serie A pour pouvoir se refaire la cerise. Ce sera dans un contexte totalement différent où Carlo Ancelotti jouera contre son passé puisqu'il a été joueur du Milan AC puis entraîneur à succès du club. On se rappelle de ses deux sacres en Champions League en 2003 et 2007. Un Real qui est en mal de repères, qui a perdu son régulateur de jeu, sa boussole, Toni Kroos, et qui n'a toujours pas réussi à trouver le bon équilibre, la bonne stratégie de jeu depuis l'inclusion de Kylian Mbappé. Donc des Merengues qui auront tout approuvé, qui ont envie de prendre leur revanche, de se réconcilier avec leurs supporters, et des Milanais avec un début coussi-coussa en Serie A et qui peuvent, à terme, créer une sensation forte et se relancer dans une compétition dont ils ont perdu les deux premières levées avant de battre très difficilement les Belges de Bruges il y a quelques semaines sur la pelouse de San Siro.
Autre affiche prévue ce mardi, PSV Eindhoven, Gironde, Borussia Dortmund, Stuttgart, Bologne, Monaco, Sporting Lisbonne, Manchester City et Liverpool, Bayer Leverkusen. Jules, belle opposition entre le leader de la Première Ligue et le champion en titre allemand.
Une belle opposition, Élysée. Si on se réfère à la fois aux résultats de la saison écoulée pour l'un et à ceux en interne de la nouvelle saison pour l'autre. On a d'une part le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, champion en titre invaincu devant le grand Bayern en Bundesliga la saison passée, qui de plus a battu des records d'invincibilité aussi bien en interne qu'en externe, ne manquant que son rendez-vous de la finale de l'Europa League perdu face à l'Atalanta Bergame du Nigérian Lookman. Après les escarmouches du début de la saison qui commence, le Bayer Leverkusen a à cœur de confirmer son nouveau statut retrouvé de Grande Europe. Alors quoi de mieux que le scalp de Liverpool de Mo Salah, leader actuel en Première Ligue anglaise, avec son nouvel entraîneur pour affirmer le grand retour. Dans tous les cas, une des premières rencontres au sommet rêvées par les amoureux de la Ligue des Champions va avoir lieu.
Amédine, demain, le FC Barcelone sera à Belgrade pour affronter l'Étoile Rouge.
Oui, Élysée, le FC Barcelone va effectuer un déplacement périlleux en allant affronter l'Étoile Rouge à Belgrade. Mais Yamal et ses partenaires seront orphelins de leurs supporters qui ne feront pas malheureusement le déplacement sur Belgrade pour avoir, quand même, il faut le dire, pour avoir brandi une pancarte raciste lors du match face à Monaco, mais je ne pense pas que cela peut empêcher quand même les Barcelonais de briller à Belgrade parce que les joueurs du FC Barcelone ont le vent en poupe actuellement. Les Madrilènes qui ont été laminés 3-0 sur leur pelouse lors du Classico ne me démentiront pas élevé. Mais comme vous le savez, nous sommes en football et en football, un match n'est jamais gagné d'avance. C'est pourquoi ce sera un peu difficile, mais le Barça pourra toujours compter sur son trio magique. J'ai nommé Rafinha, Yamal et Lewandowski, trois joueurs qui marchent sur l'eau actuellement, Élysée.
Merci à Medine. On aura aussi un gros choc ce mercredi entre le PSG et l'Atlético Madrid. Lawal, un sacré adversaire pour le club français qui peine cette année dans cette compétition.
Oui, la peine des Français est bien connue. On a maintenant senti, ils se disaient au départ qu'ils n'avaient pas besoin de Mbappé. On a senti que la marque Mbappé continue donc de jouer contre le club quand ils sont en Ligue des Champions. Parce que Mbappé a, quoi qu'on dise, était toujours celui qui apportait cette grinta-là au Paris Saint-Germain en Champions League et même en championnat. Mais comme ils ont démarré la Ligue 1 en fanfare avec des scores assez élogieux, ils se sont précipités pour dire qu'ils n'ont pas besoin de Mbappé. On constate maintenant que l'absence de Mbappé en Champions League pèse beaucoup plus sur le Paris Saint-Germain qui a du mal à retrouver ses marques. Et l'Atlético qui également a quelques soucis à se faire, surtout en Liga où il n'arrive pas à s'en sortir. L'Atlético va vouloir donc se relancer positivement et ça va être forcément un bon match. Mais un cran au-dessus, l'Atlético est le grand favori de cette rencontre. Maintenant, les Parisiens, ils peuvent surprendre parce qu'ils brillent là où on les attend le moins.
On vient maintenant sur le continent africain avec le premier tour retour des éliminatoires du CHAN 2025 qui aura lieu au Kenya, au Tanzanie et en Ouganda. Et pour une énième fois, le Bénin ne verra pas la phase finale de cette compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Lawal, les guépards locaux éliminés par les épervieux du Togo.
Je crois qu'il est temps que les responsables de la Fédération béninoise de football prennent leurs responsabilités. Parce que on a toujours dit, dénoncé, décrié la qualité du championnat de football au Bénin. Et c'est cette qualité qui se ressent à l'extérieur. Le Togo, dont le championnat n'est peut-être pas le même que celui du Nigeria ou du Sénégal, mais on constate malheureusement pour la Béninoise que ce championnat est meilleur que celui du Bénin, avec ce format où tout le monde se retrouve dans des trucs de poules, etc., etc. Donc il est temps, et à la place des dirigeants, de l'encadrement technique, je pense qu'on devrait jeter l'éponge, parce que trop c'est trop. Depuis plusieurs années, c'est les mêmes rengaines, c'est la même défaite qu'on apprend, et on crie contre la qualité du championnat, mais personne ne réagit pour chercher à corriger tout ce qui se passe. Et c'est pas l'embellie des seniors au niveau des éliminatoires de la CAN, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a pas de football au Bénin encore, et quand on va sur ce terrain, on se rend compte que les Béninois s'amusent avec le peuple, avec l'argent du peuple, ils s'amusent avec le football, qui désormais devient un truc vraiment plus important que tout ce qu'on peut croire. Et j'estime que les dirigeants doivent changer de fusil d'épaule et revoir le championnat de fond en comble afin de lui insuffler une certaine dynamique qui permette au moins de briller au niveau des équipes locales. Le Bénin n'arrive pas encore à se retrouver. La dernière fois, les juniors ont été également éliminés. Et quand ça se passe comme ça, on se dit à quoi servent tous ces sous-là qu'on injecte dans le foot alors que ça ne produit rien de bon aux yeux des supporters béninois.
Merci Lawala. Et dans la zone CECAFA, Jules, le Soudan et le Soudan du Sud ont décroché leur qualification pour le prochain tour après avoir éliminé respectivement la Tanzanie et le Kenya.
Élisée, c'est toujours avec joie et beaucoup de fierté que les véritables supporters du football continental retrouvent son football profond lors de la compétition du CHAN, où les supposés petits poussets peuvent, loin de la participation des professionnels expatriés, jauger le véritable potentiel de leur réservoir interne et jouer à armes égales avec des adversaires mieux classés. Alors rien d'étonnant que le Sud-Soudan, dans la zone CECAFA, ait trouvé des ressources pour prendre au deuxième tour la place de la Tanzanie et du Kenya, pourtant en pleine ascension au niveau des équipes fanions sur le continent. Par contre, malgré la guerre dévastatrice que connaît le pays, les joueurs soudanais évoluant loin des zones de combat tiennent courageusement leur rang. Le Soudan étant un habitué des phases finales du CHAN depuis la création de la compétition. Alors, que la fête continue.
Le Rwanda aussi sera au dernier tour après avoir renversé Djibouti. Qualification également de l'Eswatini et du Libéria. Les matchs allés de ce dernier tour auront lieu du 20 au 22 décembre prochain. Les retours une semaine plus tard. Et à Médine, le Sénégal fera face au Libéria.
Oui, Élisée, pour le dernier tour de ces éliminatoires du CHAN, le Sénégal fera face au Libéria. Comme vous le savez, le Sénégal détenteur du titre était exempté lors du premier tour. Donc, il faut dire que pour leur rentrée, ce ne sera pas facile puisque les Sénégalais vont essayer quand même de se défaire de ces Libériens qui ont sorti déjà, hein, il faut le dire, la Sierra Leone. Donc, c'est un adversaire de taille. Surtout que si on sait, entre-temps, au niveau du Sénégal, beaucoup de joueurs hein, de cette équipe nationale locale qui avait créé la surprise en remportant le CHAN en Algérie sont devenus des professionnels. Je veux nommer quelqu'un comme Lamine Camara, hein, qui est en train de faire les beaux jours de l'AS Monaco. Mais le nouveau entraîneur de cette équipe nationale locale, après le départ de Papion, hein, qui a succédé à Aliou Cissé à la tête des Lions A, Souleymane Diallo est en train de mettre en place une équipe compétitive, puisque le Sénégal n'a pas droit à l'erreur, puisque quand on gagne le titre, on doit aller le défendre, et cela passe par éliminer le Libéria lors de ce dernier tour et enfin aller au CHAN pour pouvoir défendre son titre. C'est une mission difficile, il faut le dire, mais pas impossible pour les Lions locaux du Sénégal. Élisée.
pour les autres affiches de ce dernier tour. On aura dans la zone UFOA A, Mali, Mauritanie, Guinée-Bissau. Trois matchs également dans la zone B de l'UFOA, Togo, Niger, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, puis Ghana, Nigeria. Dans l'UNIFAC, on suivra Guinée équatoriale, Congo, Centrafrique, Cameroun et Tchad, RDC. Dans la zone CECAFA, Burundi, Ouganda, Éthiopie, Soudan et puis Soudan du Sud, Rwanda. Enfin, du côté de la COSAFA, les Swatini jouent Madagascar, le Lesotho sera opposé à l'Angola et puis Mozambique contre la Zambie. On termine par la bosse avec le combat du siècle. On se rappelle, 50 ans après, la RDC vit toujours avec le souvenir du combat Mohamed Ali George Foreman. Le 30 octobre 1974, Kinshasa, la capitale de l'Est Zaïre, accueillait le grondement dans la jungle. Alors, Jules, au-delà du sport, c'est quand même le premier grand signe de rapprochement entre la diaspora, partie depuis l'esclavage aux États-Unis et qui était en lutte pour sa reconnaissance, et les nouveaux pays africains indépendants qui cherchaient leur voie.
Effectivement, Élisée, ce n'est pas un hasard que ce rendez-vous exceptionnel organisé par le sulfureux homme de spectacle afro-américain Don King, avec le concours du président du Zaïre de l'époque, le pompeux Mobutu Sese Seko, qui faisait du retour à l'authenticité des peuples africains une priorité de la période post-indépendance, son cheval de bataille, est devenu un marqueur indélébile du rapprochement transatlantique des peuples noirs, se jugeant opprimé et sentant la nécessité de s'affirmer par la culture et le sport. Le combat de boxe historique succédait à un Woodstock à l'africaine, lors duquel le blues, le rhythm and blues, la samba, la rumba et l'afrobeat s'étaient déjà retrouvés autour du mythique James Brown. La boxe, avec le style et la victoire finale d'Ali sur le champion en titre George Foreman, assimilé à l'oncle Tom Parfait, va en plus de la science tactique du Grites marquer la postérité. Un souvenir irremplaçable et ineffaçable, Élisée, maintenu par l'image. Il faut toujours le rappeler aux générations qui se succèdent.
Merci Jules pour toutes ces explications, Amine. C'était quand même un combat symbolique qui avait marqué le sport et l'histoire.
Un combat historique et symbolique puisque c'était le retour de Mohamed Ali et de George Foreman sur la terre africaine, sur la terre de leurs ancêtres. Ça fait 50 ans quand même que ce combat a eu lieu. Il a marqué tant de générations qui auraient imaginé que 50 ans plus tard, on continuera à parler de cet affrontement qui a été retransmis en direct dans plusieurs pays du monde, à travers la télévision. C'était le premier combat de ce célèbre promoteur qui était Don King. Mohamed Ali ne partait pas favori, il avait perdu sa couronne de manière extra-sportive parce qu'il avait refusé de faire son service militaire au Vietnam. Il avait été dépossédé de ses titres et George Foreman est venu lui succéder après l'intermède de Joe Frazier. Mohamed Ali, qui était revenu à la compétition en 70, a essayé de reconquérir son titre avec des défaites douloureuses contre Joe Frazier. C'était la première de sa carrière, une autre devant Ken Norton. Il ne partait pas favori face à un adversaire qui écrabouillait tout sur son passage. Et puis on a vu comment le stratège l'a emporté sur la force brute, comment Mohamed Ali a manœuvré pendant tout le combat son adversaire, préférant encaisser les coups, subir, se reposer sur les cordes du ring, avant d'épuiser son adversaire petit à petit, puis de porter l'estocade finale au 8e round. C'est devenu un combat mythifié par la télévision, par le cinéma, avec le fameux When We Were Kings, qui était le fameux documentaire qui s'est rapporté à ce combat, ou encore la biopic sur Mohamed Ali avec le très célèbre Will Smith. Aujourd'hui, le cinéma et la télévision ont donné une toute autre dimension à ce combat, mais en filigrane, c'était au Congo, c'était sous une dictature, et c'était dans des conditions très très compliquées, mais le monde entier, la planète entière, les sportifs se souviendront de ce moment de magie, de ce moment où Mohamed Ali est devenu le plus célèbre, le plus mythique des poids lourds de l'histoire de ce noble art qu'est la boxe.
Voilà qui est clair. Merci Amine, merci aussi à Jules Valentin Ngwe, à Lawadine Kosuro et à Medine Si. Merci surtout aux auditeurs qui nous ont suivis. Sporama s'est conjugué déjà au passé. On se retrouve lundi prochain. Au revoir.